Chapitre 62. Dolman Island, dimanche 14 juin 1981. Une heure avant le coucher du soleil, Tony Harrod vit le jet privé transportant Willie se poser en douceur sur la piste, découpé en tranches par les ombres des chênes. Parent, Sutter et Kepler le rejoignirent dans le petit terminal climatisé. Harrod était tellement persuadé que Willie ne se montrerait pas sur l'île qu'il faillit avoir un hoquet de surprise en découvrant les visages familiers de Tom Reynolds, Jensen Luar et William Borden. Les autres ne semblaient nullement choqués. Joseph Kepler fit les présentations comme s'il était un ami de longue date de Willie. Jimmy Wayne Sutter lui serra la main en s'inclinant et en lui adressant un sourire énigmatique. Harrod regarda fixement Willie qui lui dit « Vous voyez, mon cher Tony, le paradis est une île. » Barren se montra des plus gracieux, serrant la main du producteur avec enthousiasme et lui agrippant le bras comme un politicien en campagne. Willie avait revêtu sa tenue de soirée, cravate noire et queue de pie. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin !» Barren sourit de toutes ses dents sans lui lâcher la main.
« Yeah !» dit Willie en souriant.
Le groupe se rendit au manoir dans une caravane de chariots électriques, ramassant en chemin secrétaire et garde du corps. Maria Chen accueillit Willie dans la grande salle, l'embrassant sur les deux joues et lui adressant un sourire radieux.
« Bill, nous sommes si heureux de vous revoir. Vous nous avez horriblement manqué. »
Willie hocha la tête.
« Votre beauté et votre intelligence m'ont également manqué, ma chère, » dit-il en lui faisant le baise-main. « Si jamais vous vous lassez des mauvaises manières de Tony, je serai enchanté de vous avoir à mon service. »
Ses yeux pâles étincelèrent. Maria Chen éclata de rire et raffermit son étreinte sur sa main.
« J'espère que nous pourrons bientôt travailler tous ensemble. »«
Yeah. »«
Très bientôt. Peut-être. »
Willie la prit par le bras et ils suivirent Barent et les autres dans la salle à manger. Le banquet se prolongea bien après 9 heures. Il y avait plus de 20 personnes autour de la table. Seul Tony Harrod n'avait amené qu'une secrétaire. Mais lorsque Barent se dirigea vers la salle de jeu située dans l'aile ouest du bâtiment, ils se retrouvèrent seuls tous les 5.
« On ne commence pas tout de suite, n'est-ce pas ?»
demanda Harrod avec une certaine inquiétude. Il ne savait pas s'il pourrait utiliser la femme qu'il avait ramenée de Savannah, et il n'avait même pas encore vu les autres pions.
« Non, pas encore, » dit Barent. « La coutume veut que nous nous occupions des affaires de l'Island Club dans la salle de jeu avant de choisir les pions de la nuit. »
Harrod examina la pièce. Impressionnante, elle rappelait à la fois une bibliothèque, le fumoir d'un club anglais de l'époque victorienne et la salle de réunion d'un conseil d'administration. Deux murs couverts de livres et pourvus de galeries et d'échelles, des fauteuils en cuir, des lampes tamisées, deux tables de billard, français et américain, et près du mur du fond, une immense table circulaire recouverte de feutrines vertes et éclairée par un plafonnier. Autour d'elle étaient disposés 5 fauteuils à oreillettes. Barent appuya sur un bouton dissimulé dans un lambris, et les lourds rideaux s'écartèrent lentement, révélant une baie vitrée large de 9 mètres qui donnait sur les jardins illuminés et sur le long tunnel de Live Oak Lane. Harrod était sûr que le verre légèrement polarisé était à l'épreuve des regards indiscrets, tout autant qu'à celle des balles. Barent leva la main avec emphase, comme pour présenter la pièce et la vue imprenable à Willie Borden. Celui-ci hocha la tête et s'assit dans le fauteuil le plus proche. La lueur du plafonnier transforma son visage en masque ridé et ses orbites en cavernes obscures.
« Yeah ! Très agréable ! À qui est ce siège ?»«
C'était... celui de Mr. Trask, » dit Barent. « Il vous revient de droit. »
Les autres prirent place, Sutter indiquant son siège à Harrod. Il s'assit sur le luxueux fauteuil de vieux cuir, croisa les doigts sur la feutrine et pensa à Charles Colben, qui avait nourri les poissons pendant 3 jours avant qu'on le retrouve dans les eaux sombres de la Schuylkill River.
C'est un chouette club.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On apprend le serment secret et on chante des chansons?
Barent eut un petit rire plein d'indulgence et parcourut l'assistance du regard.
Je déclare ouverte la 27e séance annuelle de l'Island Club. Avons-nous à régler de vieilles affaires en instance?
Silence.
Avons-nous à régler de nouvelles affaires?
Y aura-t-il d'autres séances plénières pour discuter d'éventuelles nouvelles affaires?
Demanda Willy.
Bien sûr, dit Kepler. Tout membre peut demander la tenue d'une séance durant la semaine, sauf en période de jeu.
Willy opina.
Dans ce cas, je porterai mes propositions à votre attention lors d'une future séance.
Il sourit à Barent, révélant des dents jaunies par la lueur du plafonnier.
Je suis un nouveau membre et dois me comporter en conséquence, n'est-ce pas?
Absolument pas, dit Barent.
Nous sommes tous égaux autour de cette table, des pères et des amis.
Il se tourna vers Harrod pour la première fois.
Étant donné qu'il n'y a aucune affaire à traiter ce soir, sommes-nous tous prêts à aller visiter l'enclos et à choisir un pion pour cette nuit?
Harrod hocha la tête, mais Willy reprit la parole.
J'aimerais utiliser un de mes propres sujets.
Kepler plissa le front.
Bill, je ne sais pas si... Je veux dire, vous en avez la possibilité. Mais nous essayons d'éviter d'utiliser nos pions permanents. Les chances de gagner la partie 5 nuits d'affilée sont vraiment très minces et nous ne voudrions pas que l'un de nous se sente offensé ou nous quitte dans de mauvaises dispositions parce qu'il aura perdu un auxiliaire de valeur.
Je comprends, mais je préférerais quand même utiliser un de mes propres hommes.
C'est permis, n'est-ce pas?
Ouais, dit Jimmy Wayne Sutter. Mais il devra être inspecté et il restera dans l'enclos comme les autres s'il survit à la première nuit.
Entends-tu?
Willy eut un nouveau sourire, accentuant l'impression qu'avait Harrod de contempler un crâne aveugle.
Vous êtes fort aimable de céder aux caprices d'un vieil homme. Si nous allions visiter l'enclos et choisir les pions du jeu de cette nuit.
C'était la première fois que Harrod mettait le pied au nord de la zone de sécurité. Le complexe souterrain le prit par surprise, bien qu'il ait deviné l'existence d'un quartier général quelque part sur l'île. Il aperçut une trentaine d'hommes vêtus de treillis en poste dans les couloirs ou dans les salles de contrôle. Mais le dispositif de sécurité lui parut inexistant comparé à celui qui avait prévalu pendant le camp d'été. La majorité des forces de Barent devaient être en mer, à bord du yacht ou des bateaux de surveillance, et s'affairer à éloigner les intrus de l'île. Harrod se demanda ce que ses gardes pensaient des enclos et des jeux. Cela faisait 20 ans qu'il travaillait à Hollywood. Il savait que l'être humain était capable de tout, à condition qu'on le paye le juste prix. Certaines personnes étaient même capables de nuire gratuitement à leurs prochains. Barent n'avait sûrement eu aucun mal à recruter ses sbires. Peut-être même n'avait-il pas eu à user de son talent. Les cellules étaient d'étroites niches creusées à même le roc dans un couloir bien plus ancien et bien plus étroit que les autres tunnels du complexe. Il suivit les autres le long des niches contenant des silhouettes nues et recroquevillées sur elles-mêmes, et pensa pour la 20e fois que toute cette histoire ressemblait à un film de série B. Si un connard de scénariste lui avait présenté un synopsis de ce genre, il l'aurait étranglé séance tenante, et se serait arrangé pour le faire exclure de la guilde à titre posthume. Cet enclos est antérieur à la venue du pasteur Van der Hoof, et même à la vieille plantation du Bose, dit Barent. Un historien et archéologue que j'avais engagé pour l'étudier a émis l'hypothèse que ces niches étaient utilisées par les Espagnols pour enfermer les éléments rebelles de la population indigène, bien que les Espagnols n'aient que rarement établi des bases aussi avancées vers le nord. Quoi qu'il en soit, ces niches ont été creusées dans le roc avant 1600.
Il est fort intéressant de penser que Christophe Colomb a été le premier esclavagiste de cette partie du globe. Il a expédié plusieurs milliers d'Indiens en Europe et en a soumis ou massacré plusieurs milliers d'autres dans les îles elles-mêmes. Il aurait exterminé toute la population indigène sans l'intervention du pape, qui l'a menacé d'excommunication.
Le pape est sans doute intervenu parce que son pourcentage n'était pas assez important,
intervint le révérend Jimmy Wayne Sutter.
Pouvons-nous choisir nos pions parmi ces prisonniers?
Oui, mais laissez de côté les deux que Mr. Harrod a amenés hier soir, dit Barent.
Je présume qu'ils sont réservés à votre utilisation personnelle, Tony.
Ouais.
Kepler s'approcha de Harrod et lui donna un coup de coude.
Jimmy me dit que l'un d'entre eux est un homme, Tony. Avez-vous élargi vos préférences ou bien s'agit-il d'un de vos amis très chers?
Harrod contempla la coiffure parfaite, la dentition parfaite et le bronzage parfait de Joseph Kepler, et envisagea sérieusement de réduire ce portrait à une approximation beaucoup moins parfaite. Il ne dit rien.
Willy haussa un sourcil.
« Un pion mâle, Tony? Je vous laisse tout seul quelques semaines et vous en profitez pour me surprendre. Où est cet homme ?»
Harrod fixa le vieux producteur du regard, mais ne parvint pas à déchiffrer sa contenance.
« Quelque part par là, »
dit-il en indiquant le fond du couloir d'un geste vague. Les cinq hommes se dispersèrent, examinant les corps comme les jurés d'un concours canin. Ou bien on avait ordonné aux prisonniers de se tenir tranquilles, ou bien la seule présence du groupe les avait fait taire, car on n'entendait que des bruits de pas et des gouttes qui tombaient dans la partie la plus sombre de l'antique tunnel. Harrod allait d'une niche à l'autre, agité, cherchant les deux pions qu'il avait ramenés de Savannah. Willy se jouait-il encore de lui, ou bien avait-il mal interprété la situation?
Non, bon sang. Seul Willy avait pu s'arranger pour qu'il introduise sur l'île des pions spécialement conditionnés.
À moins que Kepler ou Sutter ne mijote quelque chose, à moins que Barent n'ait une idée derrière la tête, à moins que ce ne soit un piège pour discréditer Harrod. Il avait la nausée. Il s'avança en hâte le long du couloir, scrutant les visages pâles et terrifiés derrière les barreaux, se demandant si son propre visage était aussi terrifié que les leurs.
« Tony !»
Willy était à 20 pas de lui. Le ton de sa voix était autoritaire.
« C'est lui, votre pion mâle ?»
Harrod le rejoignit en hâte et regarda l'homme gisant dans la niche devant lui. L'obscurité était épaisse. Une barbe naissante creusait les joues maigres de l'homme, mais Harrod était sûr que c'était celui qui l'avait ramené de Savannah. Que trafiquait donc Willy? Willy se pencha sur les barreaux. L'homme lui rendit son regard, les yeux rougis par le sommeil. Ces deux-là semblaient se connaître intimement.
« Willkommen in der Höhle, mein Bauer !» dit Willy.
« Geht zum Teufel, Oberst !»
dit le prisonnier sans desserrer les dents. L'écho du rire de Willy résonna dans l'étroit couloir, et Harrod sut qu'il s'était planté dans les grandes largeurs. À moins que Willy ne se foute de lui. Barent s'approcha d'eux, ses cheveux gris luisant doucement à la lueur de l'ampoule nue. « Y a-t-il quelque chose de drôle, messieurs ?» Willy tapa Tony sur l'épaule et sourit à Barent.
« Une petite plaisanterie que me racontait mon protégé, c'est Arnold. Rien de plus. »
Barent les regarda sans rien dire, hocha la tête et rebroussa chemin. Willy n'avait pas lâché l'épaule de Harrod, et il la serra jusqu'à lui arracher une grimace de douleur.
« J'espère que vous savez ce que vous faites, Tony, »
siffla-t-il le visage cramoisi.
« Nous en reparlerons plus tard. »
Willy se retourna et suivit Barent et les autres, qui se dirigeaient vers le complexe de sécurité. Secoué, Harrod examina l'homme qu'il avait pris pour le pion de Willy. Nu, le visage pâle et presque dévoré par les ombres, recroquevillé sur la pierre glaciale derrière les barreaux, il semblait vieux, frêle, usé par les ans et les épreuves. Une cicatrice livide courait sur son bras gauche et ses côtes étaient visibles à l'œil nu. Aux yeux de Harrod, il paraissait complètement inoffensif. Seule la lueur de défiance émanant de ses grands yeux tristes exprimait une éventuelle menace.
« Tony !» dit le révérend Jimmy Wayne Sutter. « Dépêchez-vous de choisir votre pion. Nous voulons retourner au manoir et commencer la partie. »
Harrod hocha la tête, jeta un dernier regard à l'homme derrière les barreaux et s'éloigna, examinant les autres prisonniers en quête d'une femme assez jeune et assez forte, mais néanmoins facile à dominer en vue des activités de cette nuit.